Oh là là. Bon, alors, César disait, donnez des jeux et du pain et le peuple, il est content. Je ne suis pas toujours d'accord avec M. Mermet, mais c'est la liberté de parole que j'apprécie beaucoup. Alors, France Inter, laissez-nous cette émission à 17h. Content ou pas, c'est pareil. Au revoir.
Ouais, Daniel Saint-Antoine, écoute, de Marseille. Je proposais simplement à la direction de France Inter s'ils pouvaient recruter Coé ou Bataille et Fontaine. Je me sentirais bien un bon divertissement vers les 17h. Voilà, allez, courage, ciao.
Bonjour, jamais je n'aurais pensé avoir un jour à laisser un message sur le répondeur de Monsieur Mermet, mais quand je vois ce que nous prépare la rentrée, je suis inquiète. Ça fait plus de 30 ans maintenant que j'écoute France Inter et Monsieur Mermet, et je repense au slogan publicitaire qu'il y avait il y a quelques années où on écoutait France Inter quand et pour avoir quelque chose entre les deux oreilles. Ben malheureusement, je crois que la rentrée nous prépare quelque chose de bien triste. Je ne sais pas ce que l'on va faire écouter à nos enfants pour qu'ils apprennent à avoir quelque chose entre les oreilles. Je vous remercie d'avoir pris mon appel. C'était Catherine de Saint-Nazaire. Au revoir.
En tarton, le pompeux et cornichon, Cluzel et Schlesinger, qui ne puissent plus sortir sans une trentaine de pantalons de peur d'être entartés.
Bonjour, eh bien je suis comme les auditeurs de droite de la Bastille Suisse, j'en suis à moi-même, donc je suis loin de partager votre point de vue dans de très nombreux domaines, mais je pense aussi que c'est très bien que vous ayez un espace d'expression, et puis soyons mégalos, je suis comme Voltaire, je ne partage pas vos idées, mais je trouve que c'est bien qu'il faut se battre pour que vous puissiez les exprimer. Voilà.
C'est Jean-Pierre dans le Vaucluse. C'est mon psychiatre que l'on assassine. C'est notre conscience, notre lieu de parole, notre psychiatre à tous. C'est la thérapie collective des auditeurs. Toutes ces heures où tu nous as fait nous rencontrer, réfléchir sur nous-mêmes, apprendre et à être à l'écoute des autres à travers tes patients du monde entier. Tous ces moments de souffrance dans le monde, mais aussi l'espoir dans la lutte, l'amour, la beauté, la sensualité, l'érotisme parfois à travers tes émissions chaque soir à 17h. Tu redonnais espoir et regard à tous et toutes. Je me demande où nous allons pouvoir nous retourner. Peut-être dans les repères de là-bas, si j'y suis, nous pourrons peut-être continuer à rêver, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble.
Hommage à Béatrice, par cette douce journée d'été. Nous sommes rassemblés au brûlé pour t'accompagner. Béa, si le monde t'avait côtoyé, les guerres n'auraient pas existé. La béatitude est née. Là-bas, si tu y es, ton sourire diffusera en continuité. Amitié, Patrick.
Oui, bonjour, Christian de Reveil-Malmaison. 75 569, il est 13h30. Eh bien, écoutez, moi, ça fait 30 ans que je milite un petit peu pour défendre mes droits et je ne me rappelle pas avoir vu un tel mouvement de résistance. En ce qui concerne ce nombre de pétitions pour sauver l'émission, moi, je suis plutôt optimiste hein, quand on ajoute à ça la Constitution européenne qui n'est pas passée, les jeunes des banlieues qui se sont défendus, même si on peut estimer que les moyens employés sont pas toujours les meilleurs, la révolte anti-CPE, l'engouement pour le réseau Éducation sans frontières pour sauver des personnes de façon à ce qu'elles soient pas expulsées. Voilà, tout ça, c'est un petit peu, ça rend un peu optimiste. Et puis, dernière nouvelle quand même qui est pas non plus anodine, il y a quand même 56% des Français qui seraient inquiets d'une présence de Sarko. Voilà, donc tout n'est pas perdu. Bonjour à tous et puis faites circuler encore cette pétition sur tous vos réseaux personnels. Voilà, à bientôt, au revoir.
Oui, bonjour, c'est Sabine de Dordogne. dans un petit village de 525 habitants. J'apprends avec stupéfaction que cette émission risque de s'arrêter ou d'être reportée à une heure de peu d'écoute. Je me demande si on est encore dans une démocratie. On peut être d'accord ou pas d'accord avec cette émission. Il y a des jours où je suis pas d'accord, mais c'est sur le sujet ou sur ce qui est dit. Mais est-ce que c'est pas ça la liberté et la possibilité d'un débat? Je pense que nous avons tous des parents et des grands-parents qui ont donné leur vie pour que nous ayons aujourd'hui cette liberté. Ça fait peur de savoir pas très bien où on va. Donc, si on peut intervenir plus directement, faites-le savoir sur l'émission. Et puis, je ne veux pas vous dire ni merci ni au revoir parce que je pense que c'est pas possible que vous ne puissiez pas être là ensuite à la rentrée.
Le coup de Karcher ne passe pas. Le coup de Karcher ne passe pas. Pas seulement pour ce qui concerne notre émission, là-bas si j'y suis, mais c'est tout France Inter qui vous inquiète. C'est plus seulement nous, de ce côté-ci du transistor, qui nous inquiétons et que nous posons des questions sur l'avenir de France Inter. Que devient France Inter? Mais c'est vous aussi qui peu à peu comprenez que il y a une menace importante sur le service public. France Inter est le symbole sonore de l'attachement des Françaises et des Français au bien public, et vous manifestez à travers ces messages. On a dépassé les 100 000 messages en 8 jours, signature, je veux dire. Et ça dit quelque chose tout de même. Mais ça ne s'est pas, encore une fois, seulement autour du simple phénomène de déplacement d'une émission comme la nôtre, d'une heure ou deux. C'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus profond que ça. C'est pourquoi jeudi prochain, on va finir en fanfare. On va finir en fanfare à Paris, à la salle Japy. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit, la salle Japy. C'est très beau, le gymnase Japy. C'est dans le 11e arrondissement, c'est au métro Voltaire, c'est rue Japy exactement, c'est entre le boulevard de Voltaire et la rue Richard Lenoir, et on se retrouvera là, si vous voulez bien, jeudi à 20h30. À partir de 20h30, il y aura des fanfares, de la musique, des chorales, et puis des prises de parole de journalistes, de chercheurs, de syndicalistes, de toute une suite d'amis de là-bas si j'y suis, et de France Inter qui se poseront des questions. Alors évidemment, venez nombreux, il y aura à boire et à manger, il y aura des stands de la Confédération Paysanne de Normandie qui vont venir. Ça risque d'être assez joyeux, heureux, stimulant, et on se posera la question: où va France Inter? Voilà. Jeudi, je le répète, jeudi, 20h30, salle Japy, rue Japy, métro Voltaire, entre le boulevard Voltaire et la rue Richard Lenoir. C'est un très bel endroit, vous verrez. Et puis, j'ai dit 100 000, on est à plus de 100 000, là, sous mes yeux, je vois l'écran, c'est 112 819 signatures, mais on a trouvé la 100 millième. Sylvie!
Oui, bonjour.
Bonjour, bonjour Sylvie, vous êtes la 100 millième.
Oui.
Vous êtes la 100 millième signature apparue en soutien de la pétition qui a été lancée pour cette émission modeste et géniale là-bas si j'y suis, et c'est sur vous que c'est tombé. Sylvie.
C'est super qu'on soit 100 000 et même davantage à signer cette pétition. Et si on peut atteindre même 200 000 et qu'on fasse pareil à 200 millions de personnes, ce serait encore mieux.
Ouais, enfin, on n'en est pas là pour l'instant, mais c'est déjà bien parce que je crois qu'on a battu le record européen des pétitions en ligne. Alors, Sylvie, vous êtes d'où ?
De la région toulousaine.
De la région toulousaine. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis gestionnaire dans l'entreprise EDF-GDF, Gaz de France en fait.
EDF-GDF. Donc vous avez vous avez un poste de responsabilité élevé ?
Non, je suis à la base,
D'accord. Vous êtes inquiète de la privatisation EDF-GDF ?
Oui, je suis beaucoup pour les clients, mais oui, on est très inquiet pour ce qui se passe actuellement, et l'avenir n'est pas tout rose. Donc pour nos enfants et même pour les clients actuellement, on ne sait pas de quoi demain va être fait, à quelle sauce on va être mangé.
Depuis quand vous connaissez la base que j'y suis ? Comment vous avez découvert l'émission ?
C'est une émission que je connais depuis très peu de temps. Je suis une jeune auditrice. Ça fait deux ans à peu près que je suis votre émission, et je suis tombée par hasard dessus. Et en plus, par la suite, je me suis rendu compte que j'avais des amis qui écoutaient votre émission depuis des années. Moi, on n'en avait jamais parlé. Et voilà, donc, non. Et j'écoute tous les soirs maintenant, assidûment, l'émission.
Et si c'est à 15h, vous écouterez?
Non, du tout. Non, je serai en plein travail. Je ne pourrai pas l'écouter. C'est pour ça que j'ai signé votre pétition.
D'accord.
Et que je ne suis pas d'accord sur le changement d'horaire de cette émission géniale. Donc, non.
Qu'est-ce que vous écoutez d'autre sur Inter?
Alors, j'écoute le matin de Quartier Libre de Caroline Cartier.
Ouais, c'est bien ça.
Ouais. Avant d'aller au boulot, c'est pas mal, c'est sympa. C'est un petit micro-trottoir qui est original et sympathique. Le samedi matin, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même registre. C'est l'émission de Ça se bouffe pas, ça se mange.
Ouais.
Et aussi le mercredi, ce que j'arrive à entendre le mercredi, c'est Quand je serai grand.
Ah oui, l'après-midi.
Ouais, l'après-midi, en début d'après-midi, quand je serai grand, qui est pas mal non plus. Il y en a d'autres aussi que j'écoute rarement parce que avec une vie de famille, on peut pas tout écouter tout ce qu'on voudrait. Mais mon mari écoute pas mal, c'est l'ascenseur pour le jazz le soir.
Ah oui, l'émission de Julien Delfleury.
Voilà, et voilà.
Donc, bon, vous êtes des auditeurs Inter, quoi.
Voilà, on l'est.
Bon, ben j'espère qu'on vous retrouvera à la rentrée. Je vous remercie en tout cas, et bravo, vous n'avez absolument rien gagné, il faut que ce soit clair, Sylvie. Hein.
Non, je sais, j'ai juste un petit coucou et le droit de discuter avec vous, le plaisir de discuter avec vous. Donc,
ok. Merci, à très bientôt. Voilà, on l'a pas inventé, hein. Sylvie, on l'a pas inventé, c'est vraiment l'auditrice type de France Inter, enfin si toutefois il y a un type, le répondeur quotidiennement montre qu'il y en a pas, il y a une telle variété que c'est difficile de vous réduire à une seule figure, et surtout pas à des chiffres, et surtout pas à des chiffres d'audience. La manipulation médiatique, c'est quelque chose qu'on a toujours beaucoup de mal à détecter, à combattre, à deviner, surtout quand il y a un consensus général, il y a une sorte d'air du temps. Il faut beaucoup de perspicacité, de courage pour se mettre, pour faire un pas de côté et regarder, descendre du vélo collectif pour nous regarder collectivement pédaler. C'est ainsi que il y a eu une émission très célèbre qui s'appelait Vive la crise. La crise, quelle crise, vous vous en souvenez peut-être, qui a été une de ces entourloupes idéologiques dont beaucoup d'entre nous à l'époque ont été victimes. C'était une des émissions que nous avons proposées au cours de cette année et que nous vous proposons aujourd'hui en seconde diffusion. Je vous rappelle encore une fois, si vous venez d'arriver dans la basse UGSFIC, que nous nous retrouvons jeudi prochain pour finir en fanfare cette année. À la salle Japy, gymnase Japy, à Paris, dans le 11e arrondissement, métro Voltaire, à partir de 8h30, je vous en parlerai tout à l'heure, mais pour l'instant, vive la crise.
Tous les jours, comme moi, vous entendez parler de catastrophes économiques, d'inflation, de chômage, etc. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est déréglé dans le monde? Certains disent que c'est un cafouillage passager de l'économie. D'autres qu'il s'agit d'une catastrophe durable. D'autres enfin que c'est le début d'une véritable mutation, qu'un monde nouveau commence. Mais tout ça c'est abstrait. Puis moi je suis comme vous, j'aimerais bien y voir clair. Comme vous, je me sens embarqué malgré moi dans une énorme affaire qui m'échappe. Alors comme vous l'avez sans doute fait, j'essaie de comprendre et de me faire expliquer tout ça clairement. En fin de compte, je me suis aperçu que leur fameuse crise, quand on en raconte l'histoire, toute l'histoire, cela peut devenir aussi passionnant qu'un film. Vous allez voir. La crise ? Quelle crise ?
Vive la crise ! C'est là-bas que j'y suis, Daniel Mermet, avec Serge Halimi et Pierre Rimbert. Vive la crise ! Flight number 2, arriving from... Alors, on a des quantités d'auditeurs qui sont revenus en arrière avec émotion en se souvenant de cette émission Vive la crise, VLC, vous l'appelez carrément VLC en abrégé. C'était le 22 février 1984 et c'était effectivement présenté par Yves Montand. Cette émission a été vue par 20 millions de téléspectateurs ce soir-là. Elle était organisée, elle avait été annoncée à son de trompe, entre autres par le quotidien Libération. Et ça a été une grande opération et qui restera probablement un moment d'histoire, une charnière dans l'histoire de notre pays, de notre société, et dans l'histoire probablement aussi des idées. Alors, Serge Halimi et Pierre Imbert, vous avez passé pas mal de temps sur cette émission, vous l'avez décortiquée, vous l'avez analysée, vous n'avez pas cessé de disséquer cette émission, et vous y avez vu, Pierre, une forme de la pédagogie de la soumission.
Vive la crise, c'est un exercice de pédagogie de la rigueur. On est en 84 et un an auparavant, le gouvernement socialiste vient de renoncer à son programme. Et la mise en scène, la mise en spectacle de ce renoncement va être proposée sur France 2 par cette émission Vive la crise, dont Yves Montand est le présentateur. Il faut aussi signaler que Vive la crise est relayée par Libération au moyen d'un supplément, un supplément de presque une centaine de pages, qui va être diffusé à plus de 200 000 exemplaires. Et c'est un supplément historique, on pourrait dire, dont Serge Julie va donner le ton en expliquant que l'heure a sonné d'une grande révolution culturelle occidentale. Alors Serge Julie, l'ancien militant Mao, est toujours sur les grandes révolutions culturelles, mais cette fois c'est une révolution culturelle libérale, la révolution de la rigueur, de l'austérité. Il faut transformer les sujets passifs en sujets actifs, nous explique Serge Julie dans ce supplément de Vive la crise. Faire des citoyens assistés, des citoyens entreprenants. Voilà, l'entreprise, la rigueur, ce sont un petit peu les thèmes de Vive la crise, si on y ajoute aussi la rétraction de l'État social.
Alors, Pierre Imbert, au dos de cet édito historique, comme tous les éditos de Serge Julie, il y a une pub. Il y a une pub qui est offerte, une page de publicité qui est offerte par Safronov et Associés, une agence de publicité, qui dit « Changer avant que le monde change ». Debout les morts, proclame cette page, et avec un texte qui nous dit « Pourquoi ça crie, pourquoi ça grogne, ça coince, ça désespère, coucher la crise, debout les morts, il faut optimiser ». C'est le langage de quelques-uns, tel Yves Montand, hop au hit politique, ça c'est de l'anglais, hop au hit politique, il gagne parce qu'il dit haut et fort ce que personne ne veut dire. Donc on voit que là, les publicitaires viennent porter le message.
Pour les publicitaires, pour les gens qui travaillent à la télévision, pour ceux qui travaillent à la radio, pour les journalistes, pour un certain nombre d'intellectuels, 84 c'est l'année du bonheur. Tout va bien. La pub, elle explose. Mmh. La télévision, c'est l'année du début de la libéralisation, création de Canal+. Les producteurs se sentent libres, ils sont heureux, ils peuvent faire des clips. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est aussi le Bébête Show, Stéphane Collaro, la Playmette à 19h55 sur la télévision. C'est le socialisme audiovisuel. Mais ça, ce n'est qu'une partie de la réalité. Et l'autre partie, qui est beaucoup plus importante et beaucoup moins présente dans l'émission Vive la crise, c'est 1984, l'année noire du social. L'année noire pour le monde ouvrier. La barre des 2 millions de chômeurs a été franchie quelques mois auparavant. Et c'est un feu roulant de plans sociaux, d'annonces de suppression d'emplois. Et le 8 février, quelques jours à peine avant Vive la crise, le gouvernement annonce le plan de restructuration industrielle. C'est 20 000 suppressions d'emplois dans la sidérurgie, 5 000 suppressions d'emplois dans la construction navale, 25 000 emplois supprimés dans les charbonnages, hein, ce sera le plan Fabius. Et toute l'année, ce genre d'annonce va se succéder. C'est 7250 suppressions d'emplois à Renault, 6000 à Citroën, la marche des mineurs de charbon sur Paris, et puis la marche des sidérurgistes sur Paris. Les ouvriers avaient porté la gauche au pouvoir pour qu'elle sauve leur emploi, pour qu'elle sauve leur région, l'avenir de leurs enfants, et la gauche a renoncé à ce programme. Alors évidemment, la publicité que vous venez d'évoquer, « Debout les morts », Il faut positiver, ça a un parfum assez particulier, c'est vraiment une gifle pour toute une partie de l'électorat populaire de la gauche.
Au joli mois de mai, en plein état de grâce, Maître François Larose
sur son trône perché.
Me voici devant vous.
Place au vrai changement. Place au vrai changement. Et puis comme les saisons, les promesses passent. Les nouveaux locataires se sont mis en ménage. Dans les vieilles pantoufles des occupants d'avant, les vrais propriétaires sabotent l'économie.
Française, Français, me voici devant vous pour vous dire où nous en sommes, où nous allons. Et de vous faire partager autant qu'il m'est possible la conviction que j'ai de l'intérêt national.
Pour la plupart des gens, la crise, ce n'est encore qu'un mot. Mais oui, parce que nous mangeons notre faim, nous sommes en paix. Le pays profite, malgré certaines inégalités, de privilèges incroyables. Le problème, c'est que ces privilèges, nous y sommes tellement habitués que nous ne les remarquons plus.
Voilà, Yves Montand nous inquiète quand même très sérieusement. Serge Halimi, je sais que vous êtes très intéressé, vous aussi, par cette émission.
Oui, il y a beaucoup d'émissions qui font, en quelque sorte, l'histoire du totalitarisme. Il serait bon que, de temps en temps, on fasse l'histoire du libéralisme et qu'on marque à quel point l'imposition de cette idéologie s'est faite grâce à des mécaniques qui ne sont pas du tout naturelles et qui sont le produit d'un véritable matraquage. En un sens, Orwell l'avait prévu, 1984 serait une année importante, mais pas tout à fait comme il l'avait envisagé. Et 1984, Pierre Rimbert vient de le dire à propos de cette émission, c'est une année importante à l'échelle du monde occidental. Si vous voulez, récemment, le gouverneur de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande, pour souligner à quel point le libéralisme avait été aussi produit par la gauche ou par des partis de gauche, rappelait qu'à la fin de 1984, les ministres des Finances de 6 pays de l'OCDE, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Espagne, la France, la Suède et le Royaume-Uni, étaient des porte-parole actifs de la libéralisation. Or, tous, sauf un, le Royaume-Uni, appartenait à des gouvernements de gauche. Et effectivement, là, on a l'impression que c'est un exercice de pédagogie destiné à l'électorat de gauche, en partie et très largement, qui vise à accompagner le virage de la rigueur qui est entrepris par les gouvernements depuis 1983. Et je dis, ça se passe à l'échelle du monde occidental, ce revirement, ou en tout cas, ce basculement d'une partie de la gauche à droite. Aux États-Unis, 1984, c'est l'année de l'émergence d'une tendance moderne, dans le camp progressiste. Vous savez que les progressistes aux États-Unis, on les appelle les liberals. Et alors, c'est les modernes. Et les modernes, comment les appelle-t-on ? Néo-liberals. Mm-hmm. Les néolibéraux, aux États-Unis, c'est la tendance du Parti démocrate, qui est la plus proche des milieux d'affaires, des yuppies, comme on les appelle à l'époque, les bobos d'aujourd'hui, qui est la plus éloignée des syndicats et qui célèbre le plus systématiquement le culte des entrepreneurs dynamiques. En France, bon, on aura l'occasion d'y revenir, mais 1984, c'est l'arrivée de Laurent Fabius à Matignon et le discours qui est organisé autour de deux mots d'ordre, moderniser et rassembler. C'est Laurent Fabius qui remplace Pierre Mauroy, qui était lui plus associé à la vieille social-démocratie, à la fois modérée et ouvrière. C'est aussi l'année où le Parti communiste quitte le gouvernement. Et 1984, au Royaume-Uni, Pierre Rimbert évoquait tout à l'heure les mouvements sociaux, les transformations, les grèves, etc. Au Royaume-Uni, c'est le début de la grève des mineurs, qui durera un an, qui sera terrible et qui sera un terrible échec. Un peu comme 4 ans plus tôt, 3 ans plus tôt, il y avait eu la grève des contrôleurs aériens aux États-Unis, qui avait débouché sur la liquidation d'un syndicat. Or, il est évident que ces réformes libérales, qui sont entreprises dans les années 80, exigent comme condition préalable la liquidation, ou en tout cas l'affaiblissement du syndicalisme, l'affaiblissement du monde ouvrier. Et à la suite de cette grève, qui aura des effets terribles au Royaume-Uni, le Parti travailliste deviendra de plus en plus ce néo-labour que Tony Blair incarne dès maintenant, mais qui à l'époque sera prise en main par Neil Kinnock, qui sera plus tard vice-président très libéral de la Commission européenne. Et enfin, dernier exemple, qui est sans doute le plus significatif, 1984, c'est l'arrivée au pouvoir en Nouvelle-Zélande d'un gouvernement travailliste qui sera l'artisan du plus fondamental, de la réorientation la plus fondamentale de l'économie dans la voie ultralibérale, autour d'un modèle qui est le libéral-libéralisme, puisque ce gouvernement travailliste mettra en œuvre une politique ultralibérale au plan économique, mais en même temps, la décentralisation, le droit des femmes, des homosexuels, la défense de l'environnement et la défense des minorités, des Maoris en Nouvelle-Zélande. Donc vous avez en quelque sorte, dans l'ensemble du monde occidental, un basculement qui vise très largement les partis de gauche qui s'adaptent aux transformations induites par Margaret Thatcher et par Ronald Reagan depuis 1979.
Justement, Pierre Imbert, dans votre bouquin sur Libération, sur le quotidien Libération de Sartre à Rothschild, vous expliquez comment l'évolution, le basculement de ce journal, c'est le basculement de toute la société française et occidentale, par extension. Et Vive la crise est coincée dans la charnière, on peut dire.
Oui, Vive la crise marque le moment charnière. Marque le moment où la dernière digue va céder. Et cette dernière digue, c'était un peu la polarisation du champ politique français. Il y avait une droite de droite et une gauche de gauche. Et elles s'affrontaient. Et cet affrontement était insupportable pour beaucoup de gens, notamment pour ces gens qui se disaient des modernistes. Il y avait des modernistes de droite, des modernistes de gauche, qui, plutôt qu'une gauche de gauche et une droite de droite, auraient préféré une république du centre. C'est ces gens-là qu'on retrouve dans Vive la crise. Vous savez, on s'est beaucoup moqué du réalisme socialiste, de ces films de propagande, de Stakhanov, etc. Vive la crise, c'est le réalisme libéral. La production à la télévision s'est déchaînée à cette époque. 2 ans plus tard, vous aurez Bernard Tapie, avec son émission Ambition, qui vous apprend en direct à fabriquer une entreprise. Le réalisme libéral, c'est aussi ces journalistes, ces intellectuels qui vont plastronner sur les plateaux de télévision pour expliquer aux gens, et en particulier aux victimes de la crise économique, qu'il faut se serrer la ceinture, qu'il faut faire des efforts, qu'il faut faire des sacrifices, qu'il faut renoncer aux conquêtes sociales. Et c'est le thème de Vive la crise.
Et si jusqu'à présent, grâce aux Trente Glorieuses de la croissance, on a pu vivre cette crise à crédit, eh bien maintenant il va falloir payer. Cessons donc de rêver parce qu'effectivement, c'est grave. L'Europe aujourd'hui est peut-être en voie de sous-développement. Voyez-vous, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Michel Albert, ancien commissaire au plan et spécialiste des questions économiques européennes.
Alors l'un des thèmes de Vive la crise, leur idée c'est qu'on s'est beaucoup trop habitué à la croissance des 30 glorieuses. Les gens s'obstinent à réclamer toujours plus et... Voilà ce que nous propose Vive la crise sur ce thème.
Tout le monde réclame. Le 13e, le 14e, quelquefois le 17e mois. La sécurité de l'emploi, davantage de vacances, moins de soucis, etc., 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 etc. Parfois on a raison, mais souvent on exagère, vous le savez bien.
Alors là, à l'antenne, est lancé un reportage sur 2 cas de privilégiés. Et c'est assez symptomatique parce que le premier, c'est un médecin, un kinésithérapeute, qui s'indigne des conséquences de la crise sur son niveau de vie, puisqu'il va être obligé de se séparer de son domestique.
Je crois qu'il doit y avoir une trentaine de mille ou 50 000 Français qui ont fait comme moi, qui à un moment donné ont supprimé leur emploi de maison.
Et alors, suit un deuxième cas de privilégié, lui, c'est un ouvrier à EDF. Mais ses problèmes sont un petit peu différents.
Les revendications immédiates, c'est le pouvoir d'achat. On accuse déjà... 5% de perte de notre pouvoir d'achat pour l'année 83. C'est aussi la réduction du temps de travail à 35 heures, sans diminution de salaire.
Et vos avantages en nature, vous y tenez ?
Là aussi, on y tient plus que jamais. C'est un élément de notre rémunération.
Combien vous payez le kilomètre ?
4 centimes au lieu de 45 centimes pour un usage domestique. Donc ça fait partie de nos salaires, on ne doit pas y toucher.
Alors là, vous voyez, le procédé est vraiment grotesque. On met sur le même plan un médecin qui doit se séparer de son domestique et un ouvrier qui défend son pouvoir d'achat. Ça, c'est l'une des techniques employées dans Vive la crise pour faire passer la pilule de la rigueur. Car une fois cette opération réalisée, même mettre sur le même plan des gens très riches et des ouvriers pour les déclarer privilégiés, on va attribuer assez soi-disant privilégiés, mais en particulier aux classes populaires et aux ouvriers, la responsabilité de la crise et en particulier la responsabilité du chômage. L'idée motrice de Vive la crise et de ses architectes, c'est de dire que les fonctionnaires, les petits employés et le monde ouvrier, par leur conquête sociale, sont responsables du chômage. Il s'agit là d'opposer les dominés entre eux. C'est une technique qui est encore employée aujourd'hui. Vous pouvez lire, notamment dans Libération, des analyses de la crise des banlieues qui disent que le malheur des jeunes de banlieue est dû aux fonctionnaires qui sont arc-boutés sur leurs privilèges. Eh bien, ce schéma-là, il est d'abord mis en avant, il y a 20-25 ans, dans Vive la crise.
La crise ? Quelle crise ? Tout le monde en parle autour de nous comme d'un désastre.
Pour Montand, c'est un cas particulier parce que il nous dit au début de l'émission « La crise, quelle crise ?» Et effectivement, pour lui, il n'y en a aucune. Depuis quelques mois, Montand est la star des médias. Certains lui prêtent des ambitions présidentielles, d'autres disent qu'il va mener une liste aux élections européennes de 84. Et lui, Montand, qui est l'ancien compagnon de route du Parti communiste, n'a plus qu'une cible. C'est d'un côté les pacifistes allemands et de l'autre les communistes.
D'ailleurs, il dit « je suis de gauche, tendance Reagan ».
De gauche, tendance Reagan, et il se prononce également en janvier 84 en faveur d'un capitalisme libéral.
Il faut peut-être ici préciser que l'analogie avec Ronald Reagan est d'autant plus forte que Ronald Reagan était lui aussi un ancien acteur qui s'est investi dans la politique, qui est devenu président des États-Unis, et qu'au demeurant, Ronald Reagan était un ancien syndicaliste qui est devenu un adversaire des syndicats. Et donc, dans la presse française à l'époque, vous allez avoir cette analogie d'autant plus présente que 1984, c'est l'année du triomphe de Reagan. Il va être réélu président des États-Unis avec 59% des voix. Il va l'emporter dans 49 États sur 50. On a l'impression que vraiment le Reaganisme l'emporte sur la planète entière. Et on se dit, tiens, mais qui pourrait être en France ce personnage qui a beaucoup de charisme et qui serait capable en quelque sorte d'introduire à gauche les idées de la droite? Eh bien, on pense assez naturellement à Yves Montand, qui fera la couverture du Nouvel Observateur avec sa photo en costume de président de la République. Je précise qu'à l'époque, il me semble que le Nouvel Observateur était dirigé par Franz-Olivier Gisbert, qui lui-même deviendra quelques années plus tard directeur du Figaro.
C'est ça, Montand à l'époque est la figure la plus exhibitionniste de la grande repentance et du grand ralliement du monde intellectuel, médiatique, à ce qu'on appellera le néolibéralisme.
Ce qui est étonnant aussi, c'est que la charge pro-atlantiste de Yves Montand se fait au nom de la fin des idéologies. Et c'est un thème qu'on retrouve très régulièrement dans Vive la crise. Il s'agit de repousser les idéologies en général. Mais évidemment, dans le contexte des années 80, et plus précisément de 1983-84, repousser les idéologies en général, ça veut dire se détourner, repousser l'idéologie de gauche. Et c'est ce que Yves Montand va nous expliquer tout au long de Vive la crise.
Sans démagogie imbécile, parce que ce serait trop facile, je crois que les gens en condition modeste, ils sentent très bien que c'est très difficile, ils sentent très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils sentent très bien que ce n'est pas les idéologies, quelles qu'elles soient, qui peuvent résoudre les problèmes. On sait très bien que c'est de la blague aujourd'hui. Dieu merci, ils commencent à comprendre ça. Alors, comment on peut vraiment s'en sortir?
Oui, alors ce qui est intéressant là, c'est que le social-libéralisme que va prôner Vive la crise pendant 90 minutes n'est pas présenté comme une idéologie. C'est la gauche, c'est le communisme, c'est le socialisme étatiste qui est identifié comme idéologie. Mais tout ce que dit Montand, tout ce que vont dire Alain Minc, Michel Albert, Pierre Rosanvallon, Denis Kessler, etc., etc., ça n'est pas de l'idéologie. C'est en toutes circonstances présentées comme du réalisme économique. Mmh. Évidemment, ce genre de discours, ça fait 20 ans qu'on l'entend, et on a commencé à comprendre, pour reprendre les termes de Montand, que le thème de la fin des idéologies, c'est lui-même une idéologie. C'est l'idéologie de la fin des idéologies.
Ce qu'on appelle la crise, comme s'il s'agissait de la colère des dieux, d'un phénomène incontrôlable, d'une fatalité par nature plus forte que le génie de l'homme, n'est au contraire que le produit de ce génie désordonné.
Alors, Pierre Imbert, Serge Halimi, on continue donc le décortiquage de ce document « Vive la crise ». Je rappelle que c'était une émission le 22 février 1984, regardée par 20 millions de téléspectateurs. C'était un grand moment, lancé par Libération. Et là, c'est Michel Albert qui parle et qui nous dit ce qu'on va entendre par la suite très très souvent. Ça dépend de chacun, ça dépend de vous.
La crise, c'est notre production, c'est nous qui l'avons faite par notre inconscience, par nos défauts d'organisation, tenez, par les retards, par exemple, avec lesquels on a engagé des restructurations industrielles dont tout le monde savait bien qu'il fallait les faire, n'est-ce pas ?
Oui, alors Michel Albert, se moquant de la technocratie, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, parce que lui-même a été commissaire général au plan, c'est-à-dire l'emblème de la technocratie française. Michel Albert n'est pas seul. Pour nous donner les recettes de la réussite, les recettes du succès, comment sortir de la crise, il est entouré d'Alain Minck, qui commence à faire son trou dans le paysage intellectuel français. Il est entouré aussi de Laurent Geoffrin, qui est un jeune journaliste très ambitieux à Libération, dont il anime en partie le service économique. Il est entouré également, dans le supplément de Libération, de Denis Kessler, d'écrivains comme Ben Jelloun, Pierre Rosanvallon, qui aujourd'hui est au Collège de France et qui était chroniqueur économique à Libération, où il apprenait à ses lecteurs à découvrir Hayek, l'économiste libéral. Bref, un certain nombre d'intellectuels qui, là, vont se faire les docteurs, les pères la rigueur. Et il y a quelque chose qui est frappant dans ce ralliement des intellectuels, ou en tout cas de cette catégorie d'intellectuels, à la rigueur économique et à des propositions économiques qui vont démolir, qui vont défaire la classe ouvrière au début des années 80. C'est que dans les années 60, dans les années 50, ces intellectuels, on les voyait très souvent aux côtés des ouvriers. C'était des gens qui se prévalaient de leur proximité à la classe ouvrière parce qu'elle était forte, parce qu'elle était organisée. Et ils l'ont suivi, ils ont suivi la classe ouvrière tant qu'elle pouvait leur servir en quelque sorte de promontoire. Mais dès le début des années 80, au moment où le chômage, où le début de la précarité, où la récupération des aspirations à l'autonomie par le management va affaiblir la classe ouvrière, ces intellectuels, les mêmes, tournent le dos aux ouvriers et vont s'afficher, vont parader dans les médias pour préconiser des solutions économiques qui vont frapper en premier lieu les ouvriers. Et là, je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant dans cette volte-face des intellectuels ou d'une partie des intellectuels que Vive la crise met aussi en scène.
La Minck, qu'est-ce que c'est qu'un libéral de gauche ?
Oui, c'est la question à 100 francs. Le libéral est quelqu'un qui croit aux vertus du marché. Le libéral de droite, je commence par là, croit que le marché est le meilleur moyen d'obtenir un optimum économique, mais qu'il faut faire en sorte de maintenir un nombre de stabilisateurs pour que la société ne bouge pas trop, même si on atteint l'optimum économique. Le libéral de gauche, donc moi, croit que le marché, outre un certain nombre de vertus économiques, peut être un moyen assez brutal de changer la société, et que de ce point de vue, il faut le laisser jouer après.
Voilà, Alain Minck est un libéral de gauche, enfin c'est ce qu'il affirme en 1984 dans cette émission.
Vous voyez d'ailleurs la définition qu'il donne du libéral de gauche, c'est un libéral plus brutal que le libéral de droite. Donc c'est la brutalité en plus. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez trouver plus libéral qu'un libéral de droite, c'est un libéral de gauche. Et cette idéologie là qui a consisté à implanter ou à importer le libéralisme à gauche est effectivement particulièrement présente dans les milieux intellectuels et dans les milieux journalistiques et aura à cette période comme principal véhicule la Fondation Saint-Simon, qui est fondée à la fin de l'année 1982, dont Alain Minck sera le trésorier. Les principaux animateurs seront François Furet, Pierre Rosanvallon, Jacques Julliard. Elle comptera des journalistes comme Christine Ockrent, comme Serge Gilly, un grand nombre d'industriels. Et c'est en quelque sorte dans ce cénacle que s'opérera plus facilement.
Où on abolit les clivages, on est de gauche et de droite, en avant.
C'est-à-dire qu'on est soit de droite moderne, soit de gauche, libérale de gauche, comme les définit Alain Minck. Et surtout, on essaie de favoriser des liens plus étroits entre les mondes de l'intelligentsia, de l'université, de la presse et de l'entreprise. Et tout ce, l'émission Vive la crise, c'est en quelque sorte les intellectuels et les journalistes qui célèbrent l'entreprise capitaliste comme créatrice de spontanéité, d'efficacité, de modernité, de dynamisme.
Puisqu'il y a tant de chômeurs, dit-on parfois, et puisque les services publics marchent mal, il n'y a qu'à engager davantage de fonctionnaires. Ben voyons.
Depuis 10 ans, la part du revenu prélevé par l'État sous forme d'impôts et de cotisations sociales est montée à près de 50%. Cet argent sert pour une grande part à financer les salaires de la fonction publique. Mais cet argent a fait défaut aux entreprises. Depuis 10 ans, l'investissement industriel a cessé de progresser. L'Europe compte aujourd'hui 12 millions de chômeurs.
Oui, lui, alors, c'est celui qu'on vient d'entendre, là, c'est Laurent Geoffrin, oui. le journaliste de Libération, qui a expliqué un peu plus tard, 14
aujourd'hui,
ans plus
tard. Aujourd'hui, du Nouvel Observateur.
Directeur de la rédaction du Nouvel Observateur, aujourd'hui, oui.
Et alors, il s'est un peu repenti de vivre la crise en estimant qu'il est allé trop loin. Là, il est toujours dans le même sens, mais un peu moins violemment. Il disait en 98, « Nous pensions que la remise en question des acquis sociaux se ferait au service des plus exclus. » Donc l'idée, c'est que on va dépouiller le salariat de ses conquêtes sociales pour... en quelque sorte, sauver les chômeurs du chômage. C'est une idée vraiment absurde. Et dans le son qu'on vient d'entendre, ça nous résume un peu les solutions préconisées dans l'émission de Vive la crise. C'est des solutions qui ont un point commun, c'est qu'elles tournent le dos au programme socialiste sur lequel la gauche a été élue en 81, et qui passent tous par moins d'État. Moins d'État social, donc moins de fonctionnaires. On va dire, et si on embauchait des fonctionnaires, nous dit Montand, pour bien montrer que c'est une solution inepte et que, évidemment, il faut, plus on paye de fonctionnaires, plus le chômage augmente, c'est ce que nous dit Laurent Geoffrin, et moins d'État, mais aussi plus d'initiatives individuelles.
Le Puy du Fou, c'est aujourd'hui, bien sûr, la quadriphonie, le laser, l'électronique, le stroboscope, l'informatique, mais c'est surtout 30 000 habitants, originaires de 13 communes, 1500 membres actifs dans l'association, dont 650 acteurs, qui joue sur une scène de 13 hectares et qui accueille chaque été 250 000 spectateurs avec un budget, le budget de l'association du Puy du Fou, qui est de 1 milliard de centimes. Chaque année, on va jusqu'à subventionner les pouvoirs publics, je dis bien jusqu'à subventionner les pouvoirs publics, et chaque automne, on crée une nouvelle activité, une nouvelle aventure. On appelle ça, quand on vote notre budget, la part du rêve.
La part du rêve, en 1981, ça a été pour nous une autre manière de communiquer. Consistant à relier l'information au pays avec l'information sur le monde entier et finalement à mettre Beyrouth à portée de bocage et le tiers-monde à portée de générosité.
Les technos sont en train de rigoler dans le studio. Vous l'avez reconnu, bien sûr, c'est Philippe Devilliers. C'est la cerise, enfin, c'est pas seulement la cerise sur le gâteau, c'est l'horizon, c'est le futur, c'est Philippe Devilliers. Voilà la solution.
Enfin, il est présenté effectivement comme la solution, puisque dans le livre de Vive la crise, on lit « L'épopée vendéenne de Philippe Devilliers réunit la plupart des ingrédients qui composent cette indéfinissable bonne nouvelle qu'on sent poindre derrière la crise ». Un ingrédient, l'autonomie. Le projet n'a bénéficié et ne bénéficie d'aucune aide publique. Fini le rapport pathologique entre culture et argent, jugé inconciliable par définition.
Alors pourquoi Philippe Devilliers fascine-t-il autant les architectes de Vive la crise ? Eh bien parce que, d'abord, c'est une solution individuelle. L'entreprise, nous allons monter notre entreprise, on se prend par la main. C'est une initiative économique. Et puis, c'est surtout, comme nous dit le supplément de Libération, le moyen de faire partie, je cite, de cette nouvelle race de samouraïs qui, elle, n'a pas l'intention de perdre la guerre économique. En revanche, poursuit le supplément de Libération, qui nous explique comment sortir de la crise, je cite toujours, si les gens qui travaillent se contentent seulement de tendre la main, ça en fait des assistés et c'est dangereux pour eux. Alors le thème de Vive la crise, et en particulier de ce mélange de communication et de proclamation à la gloire de l'entreprise et de l'initiative individuelle, est résumé dans le supplément de Libération par Laurent Geoffrin. Alors je vais citer cette phrase parce qu'elle l'a rendue très célèbre, une partie de sa notoriété est due à cette phrase. Je cite Laurent Geoffrin, « Comme ces vieilles forteresses, reléguées dans un rôle secondaire par l'évolution de l'art militaire, la masse grisâtre de l'État français ressemble de plus en plus à un château fort inutile, La vie est ailleurs, elle sourd de la crise par l'entreprise, par l'initiative, par la communication. Fin de citation.
Oui, je voulais dire, dans le cas du spectacle de Philippe de Villiers, il y a aussi une dimension qui est importante, qui est la dimension contre-révolutionnaire. Le spectacle de Philippe de Villiers est un spectacle qui glorifie les Chouans et qui présente la Révolution française comme l'origine d'un grand nombre des maux que la France doit affronter à l'époque. Donc Philippe de Villiers, c'est aussi, en quelque sorte, l'installation au cœur même de la pensée française d'une idéologie contre-révolutionnaire qui vise à revenir sur tous les acquis démocratiques datant de 1789.
Mais Yves Montand n'est pas dupe. Hein. Dans le film « Dans Vive la crise », il dit à Michel Albert, qui lui présente le Puy du Fou et Philippe de Villiers, il dit « Oui, mais tout ça, c'est un exemple. Bon, c'est un seul exemple que vous êtes capable de me citer. C'est folklore. » Dit Montand. Est-ce que vous avez d'autres exemples ?
Alors, il y a un autre exemple, et là, c'est la solution à plus long terme, c'est l'Europe libérale. L'Europe libérale, la solution nous est préconisée dès 1984, et bon, après, ce sera une marche forcée qui va passer par l'euro, par le respect des convergences, des critères de convergence de Maastricht, et qui va nous amener en mai 2005 au référendum pour la Constitution européenne. Mais voilà ce qu'en 1984, les architectes de Vive la crise nous promettaient comme avenir radieux.
Première visite officielle de la nouvelle présidente de l'Europe, Margaret Thatcher, aux États-Unis. Reçue par le président Reagan, Madame Thatcher s'est félicitée de la bonne coopération entre les États-Unis d'Amérique et les États-Unis d'Europe. Le président américain, lui, souhaite que l'Europe cesse de pratiquer des taux d'intérêt trop élevés. L'écu, notre monnaie nationale, vient en effet de crever tous les plafonds à la bourse de Wall Street en cotant cette semaine 2,52 $. La Banque centrale américaine a été obligée d'intervenir une nouvelle fois pour soutenir le cours du dollar.
Alors évidemment, il s'agit d'une extrapolation. On a bien compris que c'est pas un document hein, qui est inscrit.
Non, c'est l'anticipation de ce qui se produit le 12 décembre 94, c'est-à-dire 10 ans après l'émission Vive la crise. Donc anticipation, Margaret Thatcher, présidente de l'Union européenne, Raymond Barre, ministre européen du commerce extérieur. Il faut dire que Raymond Barre est un lecteur de Libération. Il a fait savoir que c'était l'un de ses quotidiens préférés à l'époque. Helmut Kohl est ministre européen de la Défense. Et comme l'anticipation n'exclut pas un certain nombre de données stratégiques, on évoque à un moment, je cite, « les forces du croissant ont envahi le Maroc et l'Union européenne n'a que Gibraltar pour la séparer des États islamiques ».
Pierre Imbert.
Oui, je voudrais ajouter, on ne voit pas rétrospectivement la violence de cette émission quand on l'écoute aujourd'hui, parce que bon, les extraits qu'on a entendus peuvent paraître bouffons, mais il faut rappeler, encore une fois, que ça se passe dans un contexte de crise économique très aiguë, qu'il y a des millions de gens qui sont au chômage, et il faut un peu imaginer la réaction de certains téléspectateurs lorsqu'ils voient apparaître à 21h un carteron d'inspecteurs des finances, c'est-à-dire des gens qui ont été payés pour la collectivité pour gérer l'État et qui proposent de faire moins d'État et de faire payer les pauvres, un carteron de journalistes, Laurent Geoffrin, Christine Ockrent, etc., pour qui la crise économique va devenir une espèce de source de notoriété, qui écrivent des bouquins sur le dos des pauvres et qui, par-dessus le marché, leur intiment l'ordre de se serrer davantage la ceinture. Il y a une très grande violence là-dedans. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu des réactions à Vive la crise qui allaient dans ce sens.
Le professeur Montand, le professeur d'économie Yves Montand a fait son show hier à la télévision. 53% des Français ont regardé l'émission Vive la crise sur Antenne 2. D'une manière générale, Yves Montand est devenu le chouchou des Français, mais il y en a quand même certains qui sont déçus. Exemple, ce mineur rencontré par Jean-Noël Deléage, monsieur Diaz Avelino.
Je suis extrêmement déçu. Je m'attendais à un autre langage de la part d'Yves Montand. Il ne peut pas parler d'un problème qu'il ne connaît pas. Puisque parler de la crise pour Yves Montand ne correspond pas à la même façon de ressentir la crise comme moi je peux la ressentir aujourd'hui au niveau des fameuses mutations technologiques puisque je travaille dans le charbon. Vous discutez du problème de la crise, il aurait été peut-être bon qu'Yves Montand discute de la fiche de paye, qu'on discute éventuellement avec un OS de chez Renault, qu'on discute avec un métallo, qu'on discute avec un gars des chantiers navals, qu'on discute avec un mineur, mais en aucun cas, Yves Montand n'avait le droit de pouvoir parler de la crise, puisque la crise, lui, ne la ressent pas comme moi, je peux la ressentir aujourd'hui.
Alors, voilà quelqu'un qui conteste. Est-ce qu'il y a eu d'autres contestations, d'autres critiques de cette émission ? Oui, bien sûr.
C'est-à-dire que les réactions politiques, notamment à l'émission Vive la crise, se répartissent un peu des deux côtés de la barrière qui sépare d'un côté les partisans de l'autre politique, du respect du programme socialiste, et puis, de l'autre côté, les partisans de la rigueur économique. Hein. François Mitterrand a vu l'émission, il l'a trouvée plutôt bonne, il a même expliqué à Libération qu'elle reflétait un peu l'action du gouvernement. Pierre Bérégovoy aussi a vu l'émission, l'a appréciée, Edmond Maire également. Il l'a apprécié, mais alors modérément. Edmond Maire, c'est donc le secrétaire général de la CFDT à l'époque. Et d'un côté, il trouve que cette émission reflète exactement la ligne de la CFDT. Alors on est en 84 hein, déjà, puisqu'il nous dit, je cite Edmond Maire, « Depuis 10 ans que nous nous efforçons de prendre la crise comme levier de transformation, du chemin a été parcouru. En milieu ouvrier, la crise, ça a produit du neuf. » Ça, c'est le secrétaire général d'un syndicat qui est quand même aussi un syndicat ouvrier au début des années 80. Cela dit, Edmond Maire reproche à Montand de négliger les affaires idéologiques. Il n'est pas d'accord quand Montand déclare que l'idéologie, c'est de la blague. Et il ajoute, les auteurs de l'émission s'adressaient d'abord à l'autre moitié de la population, celle qui a un bon emploi. Alors, la CGT, elle a réagi très négativement, et le Parti communiste, également très négativement, et d'une manière assez juste, il faut le reconnaître.
Voyez-vous, je ne sais si nous vous avons convaincu, mais moi je retire une idée de tout ça. C'est que finalement, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire, en définitive, c'est vous, et vous seul, qui trouverez la solution. Il n'y a pas de sauveur suprême, il n'y a pas de super caïd, il n'y a pas de superman. C'est vous, prenez-vous par la main, sachez ce que vous voulez, demandez-le, voyons ce qu'on peut faire et avancez. Alors, ou on aura la crise, ou on sortira de la crise, et dans les deux cas, on aura ce qu'on mérite. Voilà, excusez-moi d'être un peu comme ça, mais on arrive à la fin. Bonsoir et à bientôt.
Voilà, 1984 sur France 2. La chute de cette fameuse émission.
Oui, à bientôt, nous dit Montand. Effectivement, il faut se rendre à l'évidence, la plupart des solutions qui étaient préconisées dans Vive la crise ont été appliquées depuis 1984 par les gouvernements qui se sont succédés depuis cette date. Hein, les tabous des avantages acquis, c'est-à-dire les conquêtes sociales, le tabou du profit, des salaires, la flexibilité, les privatisations, tout ça a été brisé un à un par les gouvernements successifs. On a privatisé, on a précarisé, on a baissé les salaires, etc. Vous savez, au moment où la Fondation Saint-Simon, qui était un peu l'architecte de cette émission, s'est dissoute en 1999, Michel Albert, qui est l'inspirateur de Vive la crise, dira, je le cite, « Nos idées, croyances dans l'économie de marché et l'Europe sont au pouvoir ». Alors oui, en France, le néolibéralisme est entré par la gauche. Alain Minc, Jean-Pierre Levade, qui écrit aujourd'hui des livres sur le capitalisme, ou la plupart des membres de l'association, la Fondation Saint-Simon, s'affichaient effectivement à gauche. Ils étaient à gauche pourvu que la gauche emprunte sa pensée économique à la droite. D'ailleurs, Jean Daniel, qui dirige le Nouvel Observateur, expliquera à un moment que la Fondation Saint-Simon, je le cite, est née avec le présupposé que le déblocage de la société française passait par un capitalisme réel, assumé, mais régulé et moralisé par des gens de gauche. Et cette opération de régulation et de moralisation du capitalisme, c'était un peu l'objectif, l'ambition de Vive la crise.
Et ben voilà, merci à Serge Halimi et Pierre Rimbert, c'était Vive la crise. La tristesse un peu là-dedans, c'est qu'après ça, Montand, Yves Montand, le grand Yves Montand qu'on adorait, qu'on adulait, il est un peu passé au placard, quoi. Merci à tous, et je rappelle le grand événement de la semaine, ce sera jeudi soir, jeudi prochain, on va finir en fanfare à la salle Japy à Paris, dans le 11e arrondissement, métro Voltaire, c'est entre le boulevard Voltaire et la rue Richard Lenoir, le gymnase Japy, à 20h30, on se retrouve pour Où va France Inter, avec en fanfare, en musique, avec des chorales, etc. On réfléchira sur le devenir de notre radio bien-aimée, avec des journalistes, des producteurs, des chercheurs de tout poil. Venez nombreux à 20h30 jeudi prochain. Et d'ici là, n'oubliez pas d'aller consulter www.la-ba.org pour voir et consulter la pétition émission en ligne sur notre émission Modeste et Géniale. Merci à tous. Merci à Antoine Chaouyan Chouquet qui ont réalisé cette émission, Pascal Pascariello et Christophe Imbert qui s'occupent du répondeur. Dans le numéro est le 01 56 40 37 37. Il est 18h sur France Inter. On se retrouve demain à 17h pour la base. Si j'y suis, je vous laisse pour les infos avec Laurence Thomas. Salut.